Et bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, la radio ouverte, vous écoutez Le Monde Changer. Il est 8h.
Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier.
Il chantait les marionnettes, mais aujourd'hui, le vent d'hiver souffle en avril et il a emporté Christophe hier soir. Nous pleurons un chanteur qui adorait son public, une histoire d'amour sans parole, quoique.
Pour moi, de me retrouver sur scène, d'avoir mon public toujours là et de voir le mélange avec des jeunes, ça serait quelque chose d'assez fort pour moi.
Et les jeunes artistes, Isabelle est bien inspirée. Europe 1 rend hommage à Christophe ce matin. Loin des longs discours futiles, une petite phrase ce matin dans la presse internationale. Des choses se sont passées qu'on ne sait pas, déclare Emmanuel Macron au sujet de la Chine. Décryptage à suivre et l'analyse de Vincent Hervouet sur les zones d'ombre de Pékin au sujet de l'épidémie. Nous appellerons le chef d'un service d'urgence qui lance un cri d'alarme. Il faut continuer à se soigner et à aller à l'hôpital ou chez le médecin quand on n'a pas le coronavirus. Enfin, un témoignage d'optimisme et de force. Les mots bleus lumineux de Colette, 87 ans, guérie du coronavirus, alors que les médecins lui avaient dit que tout était terminé.
J'ai dit, je veux pas m'en aller, j'ai un contrat encore. J'ai 65 ans de mariage au mois de juin.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. À 8h30, l'hommage à Christophe qui se poursuit avec vous, vos témoignages au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. À 8h45, bien sûr, Nicolas Canteloup et sa revue de presque. Il est 8h02.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Avec les filles, j'ai un succès fou. Ouh, le charme, ça fait vraiment tout.
Il a eu un succès fou avec les filles et avec tous les amoureux de la chanson. Christophe s'en va à 74 ans, une maladie pulmonaire a eu raison de ce beau bizarre, comme il disait lui-même. Un dandy, un peu maudit, un peu vieilli, certes, mais dont les tubes, Aline, les mots bleus, Señorita, n'avaient pas pris une ride.
Jean-Philippe Ballas, Christophe n'était jamais dans le calcul. Il est passé au panthéon de la chanson, presque malgré lui.
Bah écoutez, s'il y a un mot que Christophe détestait par-dessus tout, c'était le mot « carrière ». Lui, le gamin qui écoutait du blues, qui rêvait de belles voitures rouges et qui disparaissait parfois, dandy, noctambule, insaisissable, hors système. Lors de notre première rencontre en 96, je lui avais demandé justement comment il se voyait.
Je me vois mal parti. Je dors à l'envers dans le lit, quoi. Ils sont à la tête, moi je suis au pied. Je ne me referai pas, quoi. Après, il y a le reste qui suit, quoi. Il y a la scène. Et quand, pour moi, de me retrouver sur scène, d'avoir mon public qui est toujours là, parce que, qui m'aime, et de voir le mélange avec peut-être des jeunes, ça serait quelque chose d'assez fort pour moi.
Et il avait réussi ce tour de force, Christophe. Avoir été d'abord un chanteur populaire avec Aline, puis un artiste culte avec ses derniers albums. Je ne vis que pour le son. C'est ce qu'il disait tout le temps. Le passé ne m'intéresse pas. Je ne me souviens de rien.
Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré.
Christophe, couturier de la chanson, comme le dit Jean-Michel Jarre. On a tous envie de crier Aline, hein, et on promet, on va continuer à écouter Christophe aujourd'hui sur Europe 1 d'une tendresse absolue pour aborder cette drôle de période que nous vivons en ce moment confinés.
Votre Christophe, si j'ose dire, votre souvenir avec Christophe, ses chansons, une anecdote peut-être qui vous concerne directement, 3921, le hashtag Radio Ouverte. Jean-Michel Jarre justement sera en direct avec nous à 8h30 tout à l'heure. Oui, cette drôle de période que nous vivons confinés, disiez-vous, François. Période où la Chine, après avoir été l'épicentre mondial d'un virus, revoit ses chiffres à la hausse. Nous en parlons ce matin. Wuhan, la ville où tout a commencé en décembre, 1300 morts de plus.
Il s'agirait des personnes décédées chez elles et non à l'hôpital et qui n'avaient donc pas été recensées pendant le confinement chinois. Le bilan du pays est désormais de 4600 décès, ce qui reste plus de 3 fois moins qu'en France, 7 fois moins qu'aux États-Unis. Et hier soir, c'est Emmanuel Macron qui a mis en doute les informations en provenance de Pékin. Selon le président français, il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas. Les précisions de Jean-Rémy Baudeau.
C'est dans la Bible du monde des affaires, le Financial Times, qu'Emmanuel Macron fait part de ses doutes. Sur la gestion de la maladie en Chine, il y a clairement des choses qu'on n'a pas su, explique le président. Pointant les zones d'ombre dans le suivi de la pandémie par Pékin, le chef de l'État réfute l'idée que les gouvernements autoritaires s'en sortiront mieux. N'ayons pas une espèce de naïveté qui consiste à dire que c'est beaucoup plus fort, on ne sait pas, précise-t-il. Un message adressé notamment en Europe à la Hongrie. On ne peut pas abandonner notre ADN à cause d'une crise sanitaire, explique le président. Alors que Viktor Orban s'est arrogé les pleins pouvoirs dans son pays à la faveur de la crise. Sommes-nous au début ou au milieu de cette crise? Personne ne le sait, reconnaît le président français. Faut-il voir dans cette interview donnée au très libéral FT une critique des dérives autoritaires et populistes que la crise du Covid pourrait engendrer? À l'Élysée, on affirme qu'Emmanuel Macron se place avant tout dans une posture d'humilité, assumant, je cite, ne pas avoir encore toutes les réponses.
La Chine, mise en cause aussi par le journal Washington Post, le virus proviendrait, selon une enquête du quotidien américain, d'une fuite involontaire d'un laboratoire chinois.
Et hier, Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, a évoqué une enquête pour faire toute la lumière. Vincent Hervouette.
On doutait déjà des dates et du bilan. On sait que le parti ment tout le temps. Mais le quotidien démocrate exhibe des notes diplomatiques qui remontent à 2 ans, le cri d'alerte de spécialistes qui ont visité un laboratoire de virologie de Wuhan. Les Chinois y surveillaient moins les chauves-souris contaminées qu'ils ne surveillent les internautes. Le journal souligne que le labo est à 300 mètres du marché aux fruits de mer, berceau officiel de la pandémie. Il est tout à côté de l'hôpital où ont été repérés les premiers cas de contamination. Cette version a le mérite de résoudre plusieurs énigmes, notamment d'expliquer pourquoi des bestioles qui nichent à 1000 km de là se sont retrouvées à Wuhan. Le Washington Post n'est pas un torchon conspirationniste. Il ne se laisse pas manipuler par le département d'État. Mais on peut remarquer que Mike Pompeo a aussitôt renchéri, l'allié britannique aussi, et Emmanuel Macron lui-même, dans une interview au Financial Times, s'interroge. Depuis le début de cette pandémie, il n'y a que le patron de l'OMS pour vanter la transparence des dirigeants chinois. Les Américains semblent décidés à les démasquer.
Le regard international de Vincent Hervouette, c'est tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1.
Et hier, Donald Trump a fait un discours très attendu, toujours attentif à la bonne santé économique de son pays. Le président des États-Unis a indiqué qu'il souhaitait faire redémarrer l'Amérique.
We can begin the next front.
Nous allons attaquer le prochain front de notre guerre. Nous l'appelons rouvrir l'Amérique. Nous n'allons pas tout rouvrir d'un coup, mais maintenant que nous avons passé le pic des nouveaux cas, nous allons recommencer à vivre.
Une bonne nouvelle, conséquence du confinement. Les concentrations de dioxyde d'azote en baisse de 54% à Paris, selon l'Agence spatiale européenne. Ce gaz toxique pour les poumons est habituellement produit par la circulation routière et les centrales électriques thermiques.
Vous restez bien avec nous dans un instant, la suite du journal. Et cette alerte des médecins, il faut continuer à se soigner et à se rendre à l'hôpital si besoin.
À tous nos clients, BNP Paribas se mobilise pour vous. Professionnels et entreprises, nous sommes là pour vous aider à faire face à la crise. Bénéficiez de mesures de soutien adaptées à votre situation. Prêts garantis par l'État, report de remboursement, réaménagement de crédit, solutions de trésorerie. Pour en savoir plus, contactez votre chargé d'affaires ou rendez-vous sur mabanque.bnpparibas. BNP Paribas, engagé à vos côtés.
Il est 8h09, vous êtes sur Europe 1 et nous allons revenir ce matin sur un chiffre. Un tiers des patients inscrits sur la plateforme Doctolib ont renoncé au moins une fois à consulter un médecin depuis le début du confinement.
Oui, ça c'est un sondage, mais sur la prise de rendez-vous, là, la baisse est mesurée par Doctolib. Moins 44% chez les généralistes, c'est bien pire chez les spécialistes, 71% de baisse.
Bonjour Patrick Goldstein.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes le chef des urgences du CHU de Lille. D'abord, avec ce constat, ces patients qui ne se rendent plus chez leur médecin, il y a la crainte de ce que des médecins appellent une troisième vague, de voir arriver des pathologies autres que le Covid après l'épidémie.
Oui, c'est certain. C'est ce que nous appelons les effets collatéraux ou une perte de chance évidente sur des pathologies qui sont des pathologies chroniques et qui sont mal suivies, en particulier par les médecins de famille qui ont l'habitude de voir leurs patients. Tous n'ont pas recours, je ne parle pas des médecins, mais des patients, tous n'ont pas recours à la téléconsultation. Et puis, il y a des pathologies aiguës, des vraies pathologies aiguës qui devraient aujourd'hui faire recours au 15, au SAMU, qui est à nouveau totalement disponible, et aller aux urgences ou dans les services spécialisés, et qu'on voit aujourd'hui avec énormément de retard.
Alors, dans les explications, dans le sondage de Doctolib, 38% des sondés ont peur d'être contaminés chez le médecin. Et puis, il y a de l'altruisme. Certains ne veulent pas déranger les personnels soignants. Vous leur répondez quoi ?
Alors, je leur réponds qu'il faut absolument soigner, parce que ce qui est important, c'est leur santé. Le système de soins est à leur disposition, il est aujourd'hui opérationnel. Dans tous nos services hospitaliers, qu'ils soient dans les hôpitaux, dans les cliniques, il y a aujourd'hui une séparation des flux. C'est-à-dire que quand on vient pour une pathologie autre, entre guillemets, que pour le Covid, on est en sécurité absolue. Donc, il ne faut pas hésiter un seul instant. Et nous rendre service aujourd'hui, c'est se soigner à temps. Car il vaut mieux venir aujourd'hui avec quelque chose qui est encore accessible à une thérapeutique qui est parfaitement ciblée, que venir, parce que c'est de toute manière comme ça que ça va se terminer, venir dans 3 semaines, dans 1 mois ou dans 2 mois, avec quelque chose qui sera malheureusement beaucoup plus avancé, qui imposera une hospitalisation qui, aujourd'hui, n'est peut-être pas nécessaire.
Merci Patrick Goldstein, chef des urgences du CHU de Lille, invité du journal de 8h d'Europe 1 en direct ce matin.
Elle n'a pas renoncé à se soigner. Au contraire, elle a lutté contre le coronavirus et c'est une histoire qui se termine bien. Elle s'appelle Colette. On ne devrait pas dire son âge, mais entre nous, sachez qu'elle a 87 ans.
Le 22 mars, les pompiers l'emmènent à l'hôpital de Grès, en Haute-Saône. Poumons nécrosés, scanner très mauvais. Colette et sa famille sont prévenus. Elle ne s'en sortira pas. Encore une semaine à vivre, tout au plus. Et depuis, la pimpante Colette est sortie guérie.
Oui, elle a retrouvé son mari, Robert, dans la maison familiale. Et avec Guy, l'un de ses enfants, elle témoigne de ce qui lui est arrivé.
C'était une doctoresse. Elle s'est assise sur le lit à côté de moi, puis ma foi, elle avait la larme à l'œil, mais ma foi. Puis il me dit, vous avez des enfants, ben faut leur téléphoner, et puis il faut compter 7 jours. C'était fini, c'était la fin. Elle ne m'avait pas laissé d'espoir. J'ai dit, je ne veux pas m'en aller, j'ai un contrat encore. Mes 65 ans de mariage, au mois de juin. Moi, je lui en veux pas du tout, hein, parce que en ce temps-ci, elles sont fatiguées. Et moi, je les admire, parce que elles ont du boulot. Hein.
Elle vous a quand même fichu un peu la trouille, quoi.
Oui, et puis à mes enfants aussi.
Surtout. C'était un gros choc pour nous. Hein. Si elle aménageait un peu ma maman, moi, elle était cash. Elle m'a vraiment dit qu'elle ne passerait pas la semaine. Moi, je m'étais mis sur le calendrier 10 jours et au fur et à mesure, effectivement, je me suis dit, le médecin s'est planté. Donc, je pense que cet été, hein, on s'était déjà entendu avec les frères et sœurs, on va faire une fête, effectivement. Oui.
Guy et Colette avec Arthur M. Bachet pour Europe 1. Notez que, comme Colette, 32 800 patients sont sortis guéris des hôpitaux depuis début mars.
Et ce témoignage fait beaucoup de bien, j'en suis sûr. Colette et son fils Guy, merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Les mots malheureusement ne sont pas bleus ce matin, ils sont gris-noir à l'image des rapports tendus entre puissances dans le monde. Le vent d'hiver souffle en avril sur une planète déréglée par la pandémie. Notre invité, le patron de l'OTAN, en exclusivité sur Europe 1, Jens Stoltenberg.
Et dans la voix de Sonia, vous l'avez compris, nous continuerons à rendre hommage à Christophe à partir de 8h30 avec vos appels au 3921 et avec Jean-Michel Jarre. À tout de suite.